Bonjour à tous, c'est Thierry Sagardoito. Je vous retrouve pour un voyage dans le temps en août 1983. Un commando de 4 activistes basques ouvre le feu sur 2 gendarmes landais qui tentaient de les interpeller. Tandis que l'un des militaires s'effondre, mortellement blessé, les 4 militants prennent aussitôt la fuite. Pourtant, l'un d'eux n'a jamais été retrouvé. Qu'est-il devenu ?
Affaire classée sur France Bleu. Thierry Sagardoito.
Nunda Popo, traduisez « Où est passé Popo ?» Cette lancinante question occupe depuis 4 décennies bon nombre de discussions au sein des milieux autonomistes basques, comme le rappellent ces tags apposés sur certains murs du Petit Bayonne. Au début des années 80, Popo est le surnom donné à Jean-Louis Lard, un jeune homme natif du village d'Ailette, connu pour ses talents de danseur, conteur et comédien. Popo ne fait pas mystère de sa sympathie à la cause basque que défendent, armes à la main, les activistes de l'organisation Iparétarac, née une décennie plus tôt au village de Saint-Étienne-de-Baïgorry. Devenu militant, il entre à son tour dans la clandestinité aux côtés de son ami Gabriel Muesca. Son destin va définitivement basculer le dimanche 7 août 1983 lors d'une fusillade dans le village landais de Léon. Retour en arrière. Lundi 1er août, les estivants débarquent en masse au Pays Basque Nord. Et pourtant, à Asquin, une maison de vacances est incendiée à 17h15 par un commando cagoulé qui a pris soin d'éloigner les enfants qui jouaient à l'intérieur. L'attentat, commis en plein jour, va vite susciter de vives réactions. Mais les activistes basques continuent. Les jours suivants, plusieurs véhicules immatriculés hors du département sont incendiés. Des attaques qui, par Étarac, ne tardent pas à revendiquer. En ciblant des touristes, nous souhaitons provoquer un choc qui donnera une autre dimension à notre action, disent-ils. La réplique policière ne tardera pas. Vendredi 5 août, la PJ interpelle à Bayonne 2 membres armés d'Iparétarac. Elle met surtout la main sur un ticket du camping de Léon où une perquisition est lancée.
France Bleu. Affaire classée.
L'opération fait chou blanc, mais la PJ prévient ses patrons. Appelez-nous si un client vous remet le double de ce ticket. Dimanche 7 août, il est 18h30. 4 militants clandestins d'Iparétarac qui séjournaient dans le camping sous de faux noms s'apprêtent à le quitter. L'un d'eux présente à l'employé le fameux coupon de paiement suspect. Alerté, le gérant appelle discrètement la gendarmerie la plus proche qui envoie 2 hommes sur place. À son arrivée, la patrouille croise fortuitement le véhicule des 4 militants basques qu'elle prend en chasse, sirène hurlante. La fuite sera courte. Les 2 gendarmes sortent de la 4L bleue, armes à la main. « Ne faites pas les andouilles », lancent-ils aux occupants visiblement pris de court. Le chauffeur fait mine de se rendre, les mains levées, mais ce n'est qu'un simulacre. Les 3 passagers sortent à leur tour, armes à la main aussi. Une fusillade nourrie éclate aussitôt. On parle de 7, voire 8 coups de feu. L'un des militaires, Yves Guimara, meurt sur le coup, tandis que son collègue, Pierre Plouzeau, s'en sort légèrement blessé à une main. Quant aux militants basques, ils s'emparent de leur pistolet de service avant de prendre la fuite à bord de la 4L bleue de gendarmerie qu'ils abandonneront plus tard en rase campagne. L'enquête démarre sur le champ. On découvre tout d'abord que le véhicule du commando appartenait à un certain Jean-Louis Lard, dit Popo. La piste basque ne fait plus de doute. Plusieurs témoins identifient Thiotier Echevest et Gabriel Muesca. Quant au quatrième homme, il pourrait s'agir de Philippe Bidard, le fondateur d'Iparétarac en personne. Mais il reste à le prouver.
France Bleu. Affaire classée.
Le lendemain, stupeur, malaise et inquiétude dominent dans le département 64 suite à cette sanglante escalade du terrorisme basque en plein été. Dès 7 heures, les forces de police déboulent en nombre dans le village d'Ailette afin de perquisitionner le domicile familial de Jean-Louis Lard. Résignée, sa maman est bien obligée d'admettre qu'elle n'a plus aucune nouvelle de lui depuis quelque temps. Entre expertise balistique et reconstitution sur les lieux, l'enquête conduite par le juge d'instruction d'Aqua, Pierre Fagald, progresse à grands pas, même si les suspects demeurent introuvables. C'est en mars 1984 que Gabriel Muesca tombera le premier dans les filets de la police. Il est inculpé de meurtre et écroué à la prison paloise d'où il s'échappera 2 ans plus tard avant d'être repris en 87. Quant à Philippe Bidard et Thiotti Etcheveste, ils seront interpellés dans une villa du Boucau le 20 février 1988 lors de la spectaculaire opération montée par le GIGN. Mais une question subsiste. Où est passé le quatrième fuyard, Jean-Louis Lard, dit Popo? Selon ses frères de lutte, le jeune Basque était à leur côté lorsque la fusillade a éclaté, mais il manquait à l'appel lorsqu'ils ont pris la fuite à bord de la 4L bleue des gendarmes. Effrayé par les tirs, Popo a sans doute préféré disparaître dans l'épaisse forêt des Landes. Mais il n'est plus réapparu depuis. Ses camarades tentèrent pourtant de le localiser, de ce côté-ci de la frontière, en visitant ses proches, ses amis, puis de l'autre côté, voire même en Irlande. Sans résultat, Popo est introuvable. Il n'a laissé ni trace de vie, ni de passage. Question, est-il décédé ?
France Bleu, affaire classée, Thierry Sagardoito.
Côté gendarmerie, le patron de la section recherche paloise, Charles Sands, est formel. Les écoutes téléphoniques et les indicateurs n'ont rien donné. Popo a donc disparu des radars de son propre chef. Une thèse officielle qui ne convainc nullement Gabriel Muesca pour qui, même s'il était habile et intuitif, Popo n'a pu s'évaporer dans la forêt de pins. Le dispositif de recherche déployé peu après le drame était tel qu'il n'a pu passer à travers seul et sans moyens. Ses frères de lutte pensaient dans un premier temps qu'il s'était planqué quelque part et qu'il faisait le mort. Mais au fil des mois, ils ont émis une autre hypothèse. Popo a été localisé, neutralisé par les gendarmes, éliminé et enterré à la sauvette, comme chez les barbouzes. En avril 84, Iparretarac publie un communiqué qui accuse ouvertement les forces de l'ordre. Selon l'organisation séparatiste, si Popo en avait échappé, il aurait donné de ses nouvelles à sa mère. L'ex-ennemi public, Philippe Bidard, avance quant à lui une hypothèse. Les gendarmes étaient excédés par le meurtre de l'un des leurs, et s'ils ont interpellé Popo, ils l'ont interrogé brutalement, et il en est mort. Ils l'ont fait disparaître, comme ça, sans laisser de traces. Peu après la fusillade, la police avait placardé partout les photos des suspects en fuite, dont celle de Jean-Louis Lard. Elle fut pourtant retirée quelques mois plus tard, comme si la police savait déjà qu'il n'était plus de ce monde. Des hypothèses à foison, certes, mais qui ne reposent sur aucune preuve tangible. Lors du procès aux assises en mars 2000 à Paris, les accusés de la fusillade de Léon tentèrent de percer le mystère, mais les autorités policières de l'époque restèrent de marbre. Rien à déclarer.
Affaire classée sur France Bleu.
Pourtant, une autre énigme judiciaire se télescope avec la disparition de Jean-Louis Lard. 20 jours après le drame de Léon, les gendarmes de Gironde découvraient le corps d'un noyé sur une plage du Porge. Bien que méconnaissable en raison de son séjour prolongé dans l'océan, les autorités estimèrent qu'il s'agissait de la dépouille de Pascal Dumont, un adolescent âgé de 15 ans dont les parents venaient de signaler la disparition de son domicile de Carbon-Blanc. Yvonne, sa mère, refusa de reconnaître le corps de Pascal, mais pour les autorités, ce ne pouvait être que lui, point final. S'ensuit une interminable guérilla judiciaire durant laquelle les époux Dumont reprochent aux autorités d'avoir inhumé dans leur caveau un autre corps que celui de leur fils. Un autre ? Et s'il s'agissait du corps de Jean-Louis Lard ? Les proches de l'activiste disparu tentent une hypothèse. Les gendarmes ont jeté son corps à la mer et, lorsqu'il a réapparu, ils lui ont donné pour identité le corps du jeune Dumont. Malgré le combat de sa mère, la justice a longtemps refusé qu'il soit exhumé afin de procéder à une comparaison d'ADN. Alors, par une nuit de décembre 2003, un commando d'inconnus est passé à l'action. Ils ont ouvert la tombe de Pascal Dumont afin de prélever un os du noyé qu'ils confièrent à un laboratoire. Avisé des faits, le procureur bordelais ordonne à son tour l'exhumation du corps avant d'annoncer qu'il s'agissait bien de celui du jeune Girondin. Une analyse que réfutent les soutiens de Popo pour lesquels l'ADN dégradé n'a permis aucune conclusion. Quatre décennies après, la question de savoir où est passé Popo demeure, pour l'heure, sans réponse.
Affaire classée sur France Bleu. Thierry Sagardolto.
Question sans réponse, c'était l'une des innombrables affaires classées que vous retrouverez sur notre application francebleu.fr ou sur ICI. Je vous raconterai une affaire qui nous ramène en septembre 2010 en Béarn, du côté de Béreinx. Le château de Sobade est la proie des flammes dans la nuit du 26 au 27 septembre 2010. Son propriétaire demeure introuvable et une question subsiste. Qui a mis le feu à cette élégante demeure construite en 1778, naguère célèbre pour le vin mousseux que ses caves abritaient?